parle trop.
Retrouvez-nous sur radiojudaica.be.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Bienvenue en ce mercredi 7 juillet 2021 pour une nouvelle édition de votre émission le préféré. On joue l'euro.
Allez Eden. Eden Hazard, la petite pichenette vers Axel Witsel.
Witsel qui récupère la passe en retrait. Pour Lukaku.
Aïe, 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 bonsoir à toutes et à tous, bonsoir pour cette émission d'avant deuxième demi-finale de cet Euro
et d'après
passionnant,
première,
et après première, vous aurez reconnu sa voix, il est là, il est toujours là, Didier Cohn, bonsoir Didier.
Il est très là.
Il est très très là, il est là et là.
Comment tu cries
Sam, salut.
Comment tu cries là?
Je laisse les auditeurs se faire leur propre idée, salut Blaise.
Salut. Et donc Blaise van der Linden qui est là avec ses pronostics en or massif.
Bonsoir à tous, comme tous les jours, je dis que je vais pas me mouiller et puis au final je me mouille quand même.
Ouais.
Et Henri Daniel, salut Henri.
Salut.
Et grâce à toi, il y a plein de gens qui ont gagné beaucoup d'argent hier, hein, parce qu'on leur a dit il y a 23 heures. Blaise a dit que l'Espagne allait gagner, voter Italie, et ben, bonne pioche.
Je crois qu'ils attendent impatiemment ton pronostic pour ce soir.
Moi, je crois que si on revoit les enregistrements, j'ai dit que je ne me prononçais pas et j'ai eu raison.
Hein. Et c'est vrai que tu as eu raison, ouais, tu t'es pas prononcé.
Pas de vainqueur.
Je propose qu'on le rebaptise Blaise le Poulpe.
Donc au programme ce soir, on va parler bien sûr de ce formidable match qui s'est disputé hier soir, un match qui a vraiment tenu toutes ses promesses, même si y a pas eu, c'était pas un match plein de folles occasions de part et d'autre, mais c'était un match d'un niveau technique assez exceptionnel. Et on va bien sûr parler de la deuxième demi-finale, celle qui se déroulera dans 58 minutes et qui opposera l'Angleterre au Danemark. Il y a eu une demi-finale, je me mouille pas là, où je pense que ce seront pas exactement les mêmes qualités qui seront mises en avant, sans manquer de respect ni aux Anglais ni aux Danois. Je pense pas qu'ils aient la maîtrise technique qu'on a pu voir hier soir, parce que c'était quand même très 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 fort.
Ce match, moi, je pense que c'était un des meilleurs de l'Euro. Hein,
ouais,
parce
ouais,
que
c'est le meilleur.
Vraiment, quand tu vois tous ces joueurs techniques sur le terrain qui manient le ballon à la perfection, franchement, j'étais impressionné.
C'est ce qu'on se disait avec Didier en regardant le match. On se disait pour les amateurs de football qui comprennent le jeu, on va pas se prendre pour des autre chose que ce qu'on est, mais je veux dire, il y a des gens qui regardent en se disant il y a pas de but, alors c'est nul. Mais pour des gens qui aiment le football et qui comprennent que on peut s'extasier sur un très beau tacle ou on peut s'extasier sur un jeu en triangle, hier c'était exceptionnel de ce point de vue-là, le milieu de terrain
surtout du côté espagnol le milieu de terrain espagnol, c'était impressionnant quoi.
C'était impressionnant, avec une mention particulière pour Olmo, peut-être.
Et Pedri
aussi.
Et Olmo. Et je pense que c'est vraiment cette titularisation de Olmo, c'est vraiment ce qui a fait changer la donne, ce qui a un peu dynamité la défense italienne, en fait. Et sur ce coup, j'ai vraiment l'impression que Luis Enrique a battu Roberto Mancini sur ce coup tactique, parce que le positionnement de Olmo a vraiment. L'Italie a eu du mal à cadrer Olmo, en fait.
Ce mec,
ça, il y a 3 ans, il jouait en Croatie dans le championnat croate. Personne savait qui c'était.
Et même là, il joue au RB Leipzig, ce qui est quand même particulièrement rare.
Modric, il y a 18 ans, il jouait en Croatie aussi, dans un club inconnu.
Mais non, c'est particulièrement rare pour des Espagnols de s'exporter. Il y en a eu, bien sûr, en première ligue essentiellement, mais c'est vrai que voir un Espagnol jouer, être à Leipzig, on connaît. C'est vrai que la performance de Leipzig, ils sont vraiment très forts pour faire éclore des joueurs qui ont déjà une petite formation, et ce qu'on appelle la post-formation, elle est exceptionnelle. Ils ont pris pas mal de joueurs français avec plus ou moins de succès, mais Upamecano, je l'ai dit en une seule fois sans me tromper, Dayot Upamecano en est un bon exemple.
Il y a Diaby, il y a Nkunku.
N'en déplaise à Thomas Tuchel, il y a Timo Werner aussi qui est passé par là.
Pourquoi je disais ça, l'information de la Croatie, c'est parce que c'est tellement rare qu'un joueur espagnol ne soit pas formé en Espagne, où il a passé 11 ans à apprendre à toucher le ballon et à faire des passes. Tiki-taka, exactement. Et le mec est passé à travers toutes les mailles du filet en Espagne.
Surtout, t'as raison de dire ça, si, vu son âge, si sa formation avait été complète en Espagne, c'était vraiment dans l'esprit, l'époque de sa formation, c'est celle du tiki-taka au summum.
Où ils étaient sur le toit du monde.
Ouais. Et moi, j'ai été impressionné par sa vision du jeu, on parle souvent de très bons joueurs, ils savent se servir de toutes les faces de leurs pieds. Lui, ça a été vraiment le cas. Il a fait des petites transitions extérieures du pied, juste couler la balle, elle coulait sur son pied et elle repartait ailleurs. Non, il a été assez exceptionnel. Pedri aussi,
ans, 20 ans pour l'autre. Et ce sont deux équipes, parce qu'il faut rendre hommage aux deux équipes,
bien sûr, ouais.
Qui sont en reconstruction, parce qu'il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des équipes à pleine maturité. Mancini, il a repris à la fin de la non-qualification, donc ça fait à peine 3 ans.
Ouais.
Je pense que Enrique, c'est pas très long, c'est après Del Bosque, je pense.
Non, il est arrivé il y a 2 ans.
Pendant la Coupe du Monde, je pense.
C'est Lopetegui qui l'a remplacé, et puis après c'est Enrique qui arrive.
Et puis il y a eu un petit gap parce qu'il a dû se retirer, Luis Enrique, puisqu'il avait une fille malade.
Oui, c'est ça.
Et il a voulu se consacrer à sa guérison.
Et alors, pour moi, ce qui me parle aussi, c'est de se dire qu'on a vu un match grandiose, parce que si on doit faire le résumé, ça n'engage que moi, j'ai envie de dire l'Italie a mérité sa victoire, et on a envie de dire l'Espagne est mal payée. Donc en fait, il aurait fallu 2 vainqueurs. Il y a 2 vainqueurs dans ce match. 3, le public aussi, à vrai dire. Mais c'est vrai, parfois, nous, on a été battus par plus fort que nous ce jour-là, par l'Italie. Il n'y avait pas photo, on va dire, voilà. Même si, en tant que supporter, on a des frustrations. Mais oui, et toute la presse l'a reconnu en Belgique. C'est peut-être la différence avec une certaine presse d'Outre-Guévrin. Tout le monde l'a reconnu immédiatement. On a trouvé notre maître ce soir-là. Je ne pense pas que c'est dans l'absolu mais ce soir-là, on était moins fort. Et hier, à la limite, j'ai envie de dire, s'il y avait eu un vainqueur au point comme en boxe, je pense que l'Espagne aurait probablement remporté la victoire s'il y avait eu ça. Et puis, la vérité du terrain est autre, mais on ne peut pas dire, on ne peut pas crier au vol. Voilà.
Ça promet des belles choses pour l'avenir.
Je suis d'accord avec toi. Ouais.
Parce que franchement, l'Espagne...
Dans un an et demi...
Il y a 2 ans, ils ont gagné le championnat d'Europe de moins de 21 ans, dont Pedri était, je crois, 4 ou 5 joueurs qui étaient alignés.
Qui
faisait partie de l'équipe championne moins de 21 ans. Donc c'est chouette pour l'avenir.
C'est vrai que la Coupe du Monde n'est que dans un an et demi, et comme je l'ai lu dans la presse ce matin, les Espagnols ont pris rendez-vous pour 2022 et pour la Coupe du Monde. Ils auront vraiment des arguments à faire valoir.
Comme les Italiens du reste.
Ils vont devoir trouver un gardien par contre.
Sur sa ligne, pas mal.
Ou
alors ils mettent un joueur au bout. Ils mettent un joueur de foot parce que. Surtout au pied le problème.
C'est dans ses relances qu'il est vraiment nul. Enfin, nul.
Et on a senti d'ailleurs que
les. Il était nerveux en plus.
Que les Espagnols lui faisaient moyennement confiance. J'ai trouvé. Autant les. Bon, Donnarumma n'était pas non plus une.
Hier, je l'ai jamais vu. J'ai rarement vu un gardien faire autant de mauvaises relances
Il n'a jamais vraiment été très très bon au pied. Il est très fort sur sa ligne et il va très vite au sol pour un mec de ce gabarit. Ouais. Mais au pied, ça n'a jamais vraiment été une référence, Donnarumma.
Moi, j'avoue, je ne connaissais pas le Simon.
Simon. Non, c'est vrai qu'il n'a pas.
Je me suis arrêté à Nina Simone.
C'est Unai Emery et Nina Simone qui ont eu un enfant. Voilà. par contre, il est très bon au piano, mais au pied, il est nul. un autre joueur dont on a parlé déjà en bien et en mal, pas nous particulièrement, mais. C'est Morata. Morata, ça semblait être son match. Avant le match, on s'est dit, c'est l'avant-centre, attaquant de la Juventus. Il joue contre l'Italie, il va être... Il va vouloir prouver, il va être décisif. Il a été décisif, mais il est... C'est un peu...
À la fin de l'histoire, je crois qu'il peut plus se promener à Madrid.
Non, ouais, il va être...
Déjà, il était vilipendé avant,
ouais,
en début de tournoi, puis après, il s'était racheté en marquant. Puis maintenant, dans le même match, il marque l'euro, et plus tard,
il loupe le, il rate le penalty.
C'est dingue, en fait. Ce qu'on vient de dire est dingue. Le mec, t'as probablement raison, mais c'est quand même affolant qu'on se dise, après une partie de foot, le mec, il peut plus se balader à Madrid, quoi. Au secours, c'est du foot, les mecs. Le mec, il a marqué un goal.
Par contre, en Italie.
Mais je veux dire, c'est quand même dingue qu'on en arrive là. On vit dans un monde de malades, clairement.
Ouais.
Mais... et que dire du Colombien d'il y a 10-12 ans à sa descente d'avion au bas?
Plus que ça, ouais, 27 ans. Ouais.
C'est délirant. Je veux dire, il y a un moment où il faut quand même remettre les
barres. Mais il y avait beaucoup d'argent en jeu, quand même. Il y avait ça. Des paris de la.
C'est contre les USA en plus.
Ouais,
comme disait Henri tout à l'heure, c'est marrant, le fair play financier, c'est un bel oxymore.
Ouais. Donc,
pour revenir sur Morata, c'est pas un secret, on le sait tous et on le voit depuis 6-7 ans maintenant qu'il est au plus haut niveau. Il a un vrai problème mental, ce joueur. Il tient pas du tout la pression, quoi. C'est dommage parce que des qualités, il en a, mais dès que ça commence un peu à se hisser devant lui, il perd complètement ses moyens. Et sur le penalty, tu vois sa tête, on avait parlé de la tête de Mbappé avant qu'il tire son pénalty raté contre la Suisse. Là, tu regardes la tête et le body language de Morata, tu te dis, mais c'est sûr qu'il va le rater. Il n'a aucune chance de le mettre.
Alors, je te rejoins peut-être. D'un autre côté, il faut aussi voir le verre à moitié plein. Le mec, il assume. Il dit, OK, au coach, pour être sur la liste des 5 premiers. Hein. Il pourrait très bien dire, pour le même prix. Il vient de marquer.
Dans le match, il marque.
Ce serait scandaleux qu'ils disent non. Dans le sens où, d'une part, c'est un attaquant, donc on attend Il est entré en cours de jeu, donc il est pas cuit comme on a pu en voir certains, parce que Eric Garcia, par exemple, l'arrière central, il est sorti. Il a même pas. Enfin, on a vu à un moment qu'il était terrassé par les crampes sur une glissade, où Laporte est obligé de tacler,
de remettre
à son gardien. Lui, il tombe et il dit, ça y est, j'en peux plus, c'est fini, oubliez-moi. Donc, il y a eu beaucoup de changements dans ce match.
Le maximum, je pense.
C'est ça, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Je pense que ils ont six changements côté italien et peut-être 5 seulement côté espagnol.
Mais ils ont eu l'intelligence, les coachs, de faire des doubles changements, comme ça,
De toute façon, ils peuvent pas faire. Oui, ils peuvent pas faire plus que 3.
Trois salves.
Mais ils auraient pu, ceux qui voulaient avoir fait. Ah, ça, je ne savais pas.
Les 5 remplacements, c'est en trois périodes, quoi.
Plus une pendant la prolongation.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Et la mi-temps, s'il y a un changement à la reprise, ça compte pas. Parce que, en fait, l'idée, c'est de pas perdre trop de temps. Donc, si vous faites un changement au retour du vestiaire, il y a pas de, c'est pas considéré comme une, comme un des.
C'est beaucoup, quand même, 6 joueurs.
Ça fait un changement d'équipe. La demi-équipe. Oui et non. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup. Mais dès lors qu'on est rentré dans cette idée de pouvoir faire des changements depuis déjà des décennies.
Est-ce que quelqu'un a prévenu Martinez?
Ouais, lui, il pense que ça se fait que pendant le temps complet. Mais il faut avoir les joueurs pour. Peut-être qu'il avait pas.
Après, moi, je trouve pas ça dérangeant dans la mesure où c'est vrai que ça casse les codes. Mais d'un autre côté, ça fera moins de frustrés. Parce qu'il y a des joueurs qui savent qu'ils vont faire banquette, qu'après le deuxième changement, ils savent qu'ils peuvent aller dans le vestiaire, c'est fini.
Sauf Benteke.
Mais à la limite, je veux dire, ça donne peut-être plus de motivation aux mecs à l'entraînement en se disant qu'ils auront peut-être pas la totalité du match. Voilà. Je pense que c'est pas plus mal.
Et puis avec cette saison à rallonge quand même, parce qu'il faut quand même le noter, on s'en souvient peut-être déjà plus, mais la plupart des compétitions se sont arrêtées en mars 2020, à part la France, les Pays-Bas et la Belgique, je crois, toutes les autres ont décidé de reprendre, c'était en juin, ils ont dû terminer
fin
juillet.
Tielemans, 80 matchs.
80 matchs, Tielemans. Ils ont fini fin juillet. Il y a eu la Ligue des Champions pour certains. Ils ont repris directement après. Il n'y a pas eu de coupure plus importante que les autres années cette saison. Et ils enchaînent avec un euro. C'est vrai que avoir la possibilité de changer 5 joueurs dans un match plus un 6e en prolongation et se servir de, et saisir cette possibilité, opportunité, C'est je pense que c'est normal.
Du bon pour tout le monde.
J'ai vraiment, enfin, pour revenir sur le match d'hier, ces changements, pour le coup, ils m'ont beaucoup déçu parce que je trouve qu'il y a aucun nouvel entrant qui a apporté quelque chose. Les prolongations, il s'est rien passé, quoi. Alors que c'est là où ils sont quasiment tous rentrés. Je trouve, Locatelli, par exemple, dont on attendait beaucoup, il a pas été bon du tout hier quand il est rentré.
Il a marqué son péno.
Oui, il marque son péno, mais.
C'était le premier.
Ouais, non, bien sûr.
Il faut y aller, hein.
Mais quand il est rentré, il était pas là, enfin. Donc j'étais
Morata
un peu
qui est rentré, qui a marqué.
Qu'est-ce qui a loupé le premier italien?
C'est pas Locatelli. Bonne question. Non, Locatelli l'a marqué. C'est enfin il me semble en tout cas.
Paolo Rossi, non.
Non.
Baggio.
maintenant tu me fais douter.
Je sais plus, il me semblait qu'il a tiré pas trop fort à droite, que le gardien l'a arrêté et que Olmo a tiré au-dessus juste après.
Alors c'est enfin, possible, j'ai une
mais je suis d'accord avec toi, Blaise. Côté italien, il y a Bernardeschi qui est rentré,
il a raté,
il a pas fait grand chose.
Il a raté.
C'est lui qui a raté.
Après, tu le vois, Chiellini qui le console quand ils sont en train de d'inverser la tendance. Autant pour moi, désolé.
Mais non, il y a pas eu de. C'est vrai que dans ce match-là, ils ont pas été décisifs. On faisait remarquer une chose aussi, c'est qu'il y avait visiblement moins de confiance sur le côté droit espagnol en fin de match, là où Gérard Moreno et Llorente sont positionnés. Et donc ça il a beaucoup insisté, alors c'est peut-être aussi parce qu'au milieu de terrain il y avait une plus grande facilité de passer sur le côté droit italien, et donc ils ont privilégié les Espagnols de jouer plutôt là, puis peut-être que le gardien de but il renvoie mieux sur le côté sur son aile gauche, et que s'il faut envoyer sur l'aile droite au pied il est pas là.
Il est savant.
Moi j'ai noté un truc, et je ne sais pas si on l'a noté ensemble puisqu'on a regardé le match ensemble, je le rappelle, et Blaise, je me suis dit que le coaching avait quand même une importance importante dans le foot, et on a pu s'en rendre compte pendant les prolongations. Parce qu'à la fin de la première prolongation, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain, c'était l'Espagne. Mmh. Et l'Italie était enfoncée. Et puis il y a eu le changement, il y a eu la minute ou les deux minutes où il y a pu avoir une espèce de caucus où on boit. Et puis, début de la deuxième période, tout a changé.
Ouais.
Et l'Italie a joué comme si c'était 0-0 et qu'il fallait absolument en gagner. Et je pense que là est le coaching, parce qu'on voit Mancini qui réunit tous ses joueurs comme Enrique l'a fait, à vrai dire. Mais dès qu'on a vu la balle mise en jeu, on a vu l'Italie transfigurée par rapport à deux minutes avant. C'est, donc je me dis, ok, le coaching, on peut se dire, oui, mais c'est quand même les joueurs qui font le taf, blablabla, et c'est vrai. Mais là, clairement, il y avait une... Dans les têtes, ça a changé, mais ça a switché comme on allume ou on éteint une lumière.
Je trouve qu'on a vu le coaching, tu as raison, même au début du match, quoi. C'est du coaching les 10 premières minutes. L'Espagne qui a mis une grosse pression sur l'Italie qui n'avait pas à sortir, c'est que du coaching.
Et c'est étonnant quand on a vu l'Italie maîtriser contre la Belgique,
exactement,
par exemple, mais dans les autres matchs aussi. Parce que contre la Belgique, c'était il n'y a pas si longtemps, je veux dire, c'était il y a une semaine. C'est pas la même chose que contre les Turcs il y a déjà 3 semaines, mais là, les voir passer d'un extrême à l'autre, la possession de balle en première, alors c'est pas le juge de paix, la possession de balle, mais 70-30, je crois, quand on voit ce que l'Italie avait réussi jusqu'à présent, c'était étonnant et c'était impressionnant de la part des Espagnols.
Ils ont descendu leur stat, hein. Ils étaient descendus à 60, je crois que c'est 65,
35,
je crois, un truc comme ça. On a dit l'Espagne a descendu son quota.
Ouais, ils ont été moins bons que d'habitude.
Ouais, ils avaient 70% de moyenne dans tous les matchs précédents, quoi.
Mais l'Italie percutante, hein.
Ouais. C'est vrai que.
Il y a une maîtrise de l'Espagne sur le jeu, et puis c'est l'Italie qui ouvre le score.
Ben, souvenez-vous ce que je vous ai dit hier, enfin, c'est pas pour mettre en avant, mais l'Espagne, encore une fois prouvé, sur un match, elle sait se créer un nombre incroyable d'occasions. Alors, il y en a, j'oublie celle de Olazabal, ou j'ai oublié son nom, qui vaut des
points. Olazabal.
Je veux dire, je pense que chacun d'entre nous ici autour de la table aurait mis la balle au moins cadrée.
Lui, il l'a mis. Puisqu'il l'a touché.
Il l'a pas touché, ouais.
Ouais, c'était, non, il l'a touché.
Il l'a touché, en plus.
Il l'a touché, et il la décroise trop, alors qu'il est seul devant le but. Enfin, bref. Mais l'Espagne s'est créé un nombre incalculable d'occasions, et encore une fois, l'Italie a été chirurgicale. Je veux dire, elle a marqué, elle rate quasiment aucune occasion qu'on lui donne, ou quasiment rarement. Contre nous, c'était pareil. Ils ont eu un but annulé sur un hors-jeu. Ok, il était hors-jeu, mais c'était une demi-occasion sur le coup franc. Et puis, c'est l'erreur de Vertonghen, et puis voilà, cadeau. Et puis on laisse venir Insigné, on lui dit vas-y, Coco tire, et bien sûr, il ne se fait pas prier.
Courtois n'a pas fait un grand match, à part les goals.
Hier, il n'a pas dû. Thibaut Courtois n'a pas eu un seul arrêt à faire. Pas hier, évidemment.
C'était non, ça, hier, effectivement, je confirme, il n'avait pas eu un arrêt à faire. L'arrêt de bus, peut-être, au maximum. Mais...
Ils ont chronométré, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont chronométré la contre-attaque italienne, c'est 12 secondes. Ouais. Entre le moment où on récupère le ballon et le moment où le ballon est dans le but. Quoi.
C'est Donnarumma, il l'a fait une courtois, hein, t'as vu ?
Ouais.
Il prend la balle, il la relance dans l'axe, on aurait dit Kevin qui partait.
Contre le Japon.
Ouais, vrai, vraiment, c'était presque une copie conforme, franchement.
Et sur cette passe-là de Donnarumma, il y a 6 Espagnols qui sont dans le vent.
Ouais, bien sûr.
Ouais, non, c'est...
Mais ça s'accélère un gardien quand il a la vista, et c'est pour ça que beaucoup de gardiens deviennent aussi entraîneurs par la suite, parce qu'ils ont une vue, ils ont un plan large, voilà.
Ouais,
en tout cas, c'est ce que je me suis laissé dire.
C'est vrai.
Comme Raymond. Raymond Lascelles était gardien d'un but.
Ouais, Goutal.
Raymond Goutal. Très grand pourtant.
Comme oui, c'était une autre époque.
Raymond
Goutal, hein, on précise, pas Raymond Domenech. Une autre vision du jeu, lui.
Il a sa vision du jeu.
Brouillé par les sourcils.
Oui, c'est ça, ça doit être ses sourcils qui l'ont gêné.
En attendant, c'est vrai que ça a répondu aux attentes, je pense. C'était
vraiment un beau match.
Mention spéciale quand même au style de Mancini et ses adjoints.
La
franchement,
classe.
La classe à l'italienne.
Ah, oui. Ben, c'est j'ai trouvé top aussi. Hein.
Il parle du costume.
Je parle du costume.
Je suis d'accord avec toi. Tous les entraîneurs, les adjoints qui avaient ce...
Ouais, l'espèce de veste bleue là, et le mec avec ses grosses lunettes noires.
C'est ça, c'est la mode italienne.
Ouais, vraiment.
Arrêtez.
Armani, Zara, c'est ça la différence. Mais non, moi ce que je voudrais, ce sur quoi je voudrais insister aussi, c'est pas tout à fait...
On va avoir le CSA sur la tronche.
On les attend. C'était pas tout à fait sur le terrain, mais c'était plus un peu en dehors. C'est l'excellent esprit qui a présidé à ce match. On a trois exemples. Tout le monde a vu Chiellini s'amuser, chambrer avec
gentiment.
Alba gentiment, ça c'est vrai. Il y a eu un chouette échange aussi entre les deux.
Et pas à n'importe quel moment.
Oui, au moment
de les toasts pour les pénaux. Donc c'était quand même un moment extrêmement
Les deux
chaud.
Gardiens de but qui se sont aussi, on le sait, ça c'est vrai qu'il y a une espèce de confrérie de gardiens de but, et quand les tirs au but approchent, ils sont pris dans les bras, ils sont disputés.
Alors qu'ils ne savent pas, parce qu'il y a eu un match, je pense, au début de l'Euro, ou alors c'était en qualif, je ne sais plus, où finalement c'est le gardien de but, un des gardiens de but qui marque le goal. C'était en Angleterre, je crois, ou je ne sais pas où il y avait eu.
Finale de la Ligue Europa.
Oui, c'est ça, voilà.
Et c'est notre.
C'est Réa qui a
le
11e pénalty.
Et tu Réa qui était sur le banc, là.
Il s'embrasse bazar, et après peut-être qu'il y en a un qui va devoir crucifier le
résultat. Et il y a un autre moment que j'ai trouvé très sympa aussi, c'est Chiesa qui rigolait avec Luis Enrique. Il était cuit, il était vraiment fatigué, et puis c'était dans la prolongation, je crois que c'était, je sais plus à quel moment exactement.
Il est sorti, en fait, juste avant de sortir,
et c'est vrai que c'était...
Crampe.
C'était un bon esprit, et pourtant ça m'a rappelé que Luis Enrique aurait pu nourrir quelques regrets, une animosité envers les Italiens, parce que, pour ceux qui ont la mémoire longue, vous vous souvenez peut-être qu'en 94, il y a eu un quart de finale Italie-Espagne, il s'est fait éclater le nez par le Mauro Tassotti, qui avait fait mine de rien, qui lui avait mis un bon coup de coude. L'autre était en sang, et à l'époque, il n'y avait pas le VAR. Ce qui fait que Tassotti s'en était sorti tranquillement, et Enrique montrait à l'arbitre, mais vous croyez que j'ai saigné comment?
J'ai revu la photo, parce qu'en plus, l'Espagne joue en blanc ce match-là, et il a le maillot rouge de sang.
Non, c'était... des bons souvenirs.
C'est ça le foot, c'est ce que tu disais hier.
C'est toi qui a dit pas vu, pas pris, pris pendu.
C'est vrai, exact.
En tout cas, c'était vraiment un excellent match. L'Italie est en finale. On l'a dit, ils ont souffert hier. Ils sont tombés sur une équipe aussi forte qu'eux. Ils avaient d'autres qualités peut-être que les Espagnols. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient un sang-froid assez fort. Verratti, par exemple, on le connaît, il est capable de, même avec trois joueurs autour de lui,
de s'en sortir.
Il a un jeu de corps assez incroyable avec le ballon. C'est-à-dire que parfois, il fait pas bouger le ballon, c'est lui qui se positionne par rapport au ballon et qui empêche les adversaires de prendre la balle. Il y a eu pas mal de déchets techniques aussi, quand même. Enfin, déchets techniques, on s'entend, j'ai l'impression qu'ils avaient une volonté de jouer très vite, souvent vers l'avant, et il y a eu des passes qui étaient un petit peu trop, pas assez appuyées. Alors c'est du coup la défense récupérait le ballon, surtout côté italien, des passes pas assez appuyées. Et puis on essayait de relancer vite. Et puis comme il y a des excellents milieux de terrain en face, bah ça coupait les trajectoires des passes, ça interceptait, ça repartait. Enfin, c'était vraiment un match emballant. Et l'Italie, moi je suis vraiment content de les voir en finale, quel que soit l'adversaire qui leur sera opposé dimanche.
Ah, s'ils gagnent l'Euro, eh bien la Belgique aurait été battue par les champions d'Europe.
C'est vrai.
Ce qui finalement serait pas mal. D'une certaine manière.
Battu pour battu.
Comme nous, on a été battu par les champions du monde en demi-finale.
Il n'y a pas de petite victoire.
Battu par les champions, nous. C'est comme ça.
Mais leur adversaire en finale, justement, qui sera cet adversaire ce soir dans 36 minutes maintenant? L'Angleterre affronte le Danemark. On s'attend, ça va être un match d'un style tout à fait différent, pense.
Intense, à mon avis.
Intense, beaucoup
d'engagement.
D'engagement, ouais. Des joueurs qui débordent d'énergie, de courage.
Deux équipes qui pressent beaucoup. Deux équipes qui n'abdiquent pas, par définition, c'est dans leur ADN. Et une équipe je ne sais plus, c'était Steve qui disait ça, est en plein métaphysique, qui marche sur l'eau, pour les raisons qu'on connaît, sur lesquelles j'ai pas envie de revenir, parce que franchement, c'est pesant à la fin. Mais le Danemark, franchement, ils sont dans une spirale extraordinaire, avec l'appui d'un public, j'ai envie de dire, planétaire derrière eux. Et puis, vous avez l'Angleterre, qui est une équipe jeune, dont on n'attendait pas aussi bien. Je me souviens que je vous avais dit, je mettrais bien une pièce sur l'Angleterre. Et franchement, elle est au rendez-vous. Quand tu vois dans les clubs anglais, les joueurs qu'il y a dans cette équipe, tu les prends un par un, c'est vraiment des top joueurs. Après, ils jouent tous la plupart jouent en Angleterre, où ils ont des coachs merveilleux. Donc ils évoluent dans le plus grand championnat au monde actuellement, je pense, franchement. Et donc, ça leur a appris, ça leur a donné une maturité, même jeune. Quand tu vois qu'un mec comme Mount, je crois que c'est 19 ans, il y en a d'autres, Grealish qui est aussi tout jeune, 20 ans,
je pense. Un peu plus vieux, mais t'as Grealish, t'as Sancho, t'as Rashford.
Rashford, il est là Rashford, il a quasiment pas joué.
Il est rentré contre l'Ukraine, c'était l'ombre de lui-même. Quoi.
Je pense que Sterling, dans un bon jour, il y a peu de gens qui peuvent le...
C'est un des meilleurs joueurs du monde, Sterling. Voilà, moi, j'adore ce genre de joueur.
Quand il reçoit le ballon de Kevin.
Et Harry Kane.
Finalement, il est au rendez-vous.
Moi, je trouve que ce gars, il est atypique. Mais j'ai toujours trouvé ce gars atypique. Mais à tous les niveaux. Il n'a pas la grosse tête. Il la ramène pas. Il fait pas de cinéma sur un terrain. Il est partout et nulle part. Il est un peu comme Dieu. En fait, il est partout et nulle part. Mais c'est vrai.
Diego Maradona.
Qui a marqué? Ah, c'est Kane. Et tu te dis, ah bon, il était là? Voilà. Il a un sens du jeu juste incroyable. Je pense qu'il y a un ciment autour de lui dans cette équipe. Il n'est pas capitaine pour rien. Et puis surtout, ce gars, il est un exemple vivant de stabilité. C'est un clubman, c'est le gars qui ne voyage pas et qui pourtant, Dieu sait qu'on se l'arracherait aux quatre coins de la planète. Et non, il est à Tottenham, il est très très bien là-bas.
Là, il a un accord de principe du club pour partir. Maintenant, la question, c'est où
qui va mettre 150 millions.
Ce qui va être très cher.
Si on sait mettre 500 pour Neymar, on sait mettre 150 pour...
C'est 200 et c'est Neymar qui a payé tout lui-même. Attention, il voulait sa liberté.
On en avait déjà parlé. On sait qu'il est sur la liste des transferts et je suis n'importe quel club avec un minimum de ressources, je saute dessus, quoi. Par exemple, mais c'est très compliqué à réaliser, mais Chelsea qui a pas de neuf, je vais dessus direct.
Est-ce qu'il ira de Tottenham à Chelsea?
Apparemment, Tottenham refuse de le vendre en première ligue. Il n'y a plus que le PSG, quoi, qui peut se le payer. Le Real,
on peut pas prendre tout le monde. Hein.
C'est ça.
J'aime bien le on.
Moi, ce qui m'a bien plu, c'est qu'il a été critiqué et qu'il a répondu que sur le terrain.
Il est impeccable de ce niveau-là. Ouais,
c'est Harry Kane, il n'y a rien à dire.
Mais surtout, c'est dingue. Il a un physique quand même il est imposant, le mec, et il est si technique. C'est impressionnant. Que ce soit but, on sait qu'il met des buts, mais il fait des passes dés. Je pense qu'il termine dans les meilleurs passeurs décisifs de Première Ligue cette saison. Enfin, c'est fou quand même.
Est-ce qu'il est meilleur que Lukaku?
Je pense qu'il est meilleur que Lukaku. Ça fait 5 ans qu'il est au top, Kane. Lukaku, il a deux grosses saisons derrière lui.
Non, moi, je vous trouve
juste un peu derrière Lewandowski.
Ouais, je pense.
Pour moi, j'arrive pas à comparer Kane à Lukaku. Voilà. Pour moi, c'est pas pareil.
Bah, demandons à l'Inter Milan s'ils ont le choix entre l'un ou l'autre. Si
Lukaku est capable de les appeler. De
j'ai Simone Inzaghi au téléphone là.
Tu vois, pour moi, dans l'axe, je suis assez d'accord avec toi. Peut-être qu'il est meilleur que Lukaku.
Moi, je pense qu'il est meilleur que Lukaku parce qu'il est plus,
habile.
Il a un jeu qui est une palette plus étendue. Il peut jouer avec un autre numéro 9 très fort et ce sera, à mon avis, un pourvoyeur de ballon exceptionnel, où il peut être lui-même le numéro 9 et en planter 28 par saison. Mais bon, c'est peu importe, à la limite,
Kane,
on n'est pas là pour...
Kane, il est un peu multifonction, c'est un peu le robot. Lukaku, c'est vraiment un autre profil, comme disait Henri. Pour moi, c'est difficile de comparer, c'est comme les pommes et les poires, quoi. Je vois pas, alors en dehors du fait qu'on dit que tous les deux sont des numéros 9, mais j'ai l'impression que tous les deux sont des faux numéros 9 qui évoluent à des places différentes. Parce que finalement, il est distributeur, bon, comme tu disais.
À la limite, peu importe, Lukaku est plus concerné par cet euro. Ni Karim Benzema.
Je crois qu'il abuse de sa position de chef.
On dirait.
J'en ai suffisamment entendu, il y a 10 jours.
C'est pas faux.
Et vous noterez que je n'ai rien envoyé. On a un groupe commun à la radio et j'ai pas envoyé un seul mime même sur l'élimination de la Belgique.
Moi, à part de dire que la France était en quart.
En quart, mais ça s'écrit pas pareil.
Je n'ai rien envoyé.
La France qui, comme je le disais tout à l'heure, a été éliminée au tir au but par l'équipe qui a été éliminée au tir au but par l'équipe qui a été éliminée au tir au but par l'Italie. Finalement, la France n'était pas si loin que ça. Un ou deux tirs au but près, c'était eux qui étaient en finale. Non, je plaisante.
Moi, je pense que ce soir, pour revenir au match qui va nous occuper dans une demi-heure, j'ai l'impression que ce sera un match extrêmement ouvert, parce que c'est deux équipes joueuses. Je ne pense pas qu'il y ait de place pour le calcul, sauf si Southgate a changé à virer sa cutie.
Est-ce que les Anglais ont connaissé ce sketch de Bigard le bol de sangria, quoi. Est-ce qu'ils vont pas à 2 mètres du bol de sangria alors qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils vont pas avoir une volonté de se dire, justement, calcule un peu plus pour pas avoir être embarrassé par une défaite face au Danemark en demi-finale à domicile?
Je peux te répondre franchement ce que je pense. Je crois que ce serait n'importe où ailleurs qu'à Wembley.
Ouais. Justement.
Peut-être que je te rejoindrai.
C'est ce que j'allais dire.
Mais devant Wembley franchement, blindé c'est... chez blindé,
ça va être fabuleux.
Je pense que leur public ne leur pardonnerait pas de mettre le bus. Ouais. Quoi.
Devant Kate.
Ils sont là.
Je sais pas, ils étaient là.
Il paraît qu'ils vont tous aller l'embrasser avant. Ils vont faire la bise to Kate. Oui, désolé. Non, c'est pas de moi. C'est
la foule en délire.
Le prince Charles a fait jouer par son c'est pas un orchestre privé, c'est l'orchestre de la famille royale. Il a fait jouer
It's Coming Home.
Football is Coming Home aujourd'hui et Sweet Caroline, qui est une chanson que les supporters anglais ont repris ces derniers temps pour encourager donc les Three Lions. C'est chouette de voir l'Angleterre concerné encore.
Est-ce que vous avez vu la réponse de Schmeichel quand on lui a posé la question?
Oui.
Justement, donc il y a un journaliste qui lui a demandé si la coupe allait coming home, et il a répondu mais est-ce qu'elle a déjà été à la home?
Ouais.
En 66,
voilà, c'est ça.
Pas celle-là, mais en tout cas le championnat d'Europe, c'est l'Angleterre, c'est l'équipe qui a joué le plus de matchs à l'Euro sans jamais le remporter. Donc bon, ils ont un petit... C'est un rendez-vous manqué pour l'euro. Peut-être que c'est leur phobie de l'Europe, ou en tout cas leur côté un peu particulier qui fait ça, mais ils n'ont jamais vraiment brillé, sauf on s'en souvient en 96, lorsqu'ils étaient sur leur sol, ils avaient atteint les demi-finales. Mais là, ils sont face à leur destin. Moi, il y a une chose qui m'interpelle dans cette équipe d'Angleterre.
Que des Anglais.
C'est ça. C'est quand même étonnant. Non, il y a trois joueurs qui pour moi sont, on peut le dire, sont des semi-chèvres, enfin pas des semi-chèvres. Il y a Maguire, bien sûr. Il y a Luke Shaw et il y a Jordan Pickford. Et Jordan Pickford, il est à 5 clean sheets, je crois, ou 4-5 clean sheets. Je suis étonné de voir ces joueurs, à ce niveau-là,
mais
parce que
même Maguire, hein,
même Maguire,
il fait
exactement.
Un euro de malade là, alors
qu'à Manchester United, on est d'accord
un joueur
que
moyen, quoi.
Voilà, quand il faut jouer contre un le tableau peut-être plus facile. Est-ce que le fait de porter la tunique anglaise
ça, les galvanise pas? C'est le cas pour plusieurs joueurs, hein, dans différents pays, que porter la vareuse nationale des transats.
Oui, c'est vrai. Pogba est dans ce style-là. Il y en a d'autres, mais c'est vrai. Et puis le fait de jouer à domicile, eux, ils ont joué tous leurs matchs à domicile.
À part l'Ukraine.
Voilà.
Joueur à Rome, ouais.
Donc. Mais l'Ukraine n'a pas joué. Donc.
Ouais, par contre, pour revenir à ce que tu disais en disant le bol de sangria, est-ce qu'ils vont pas calculer? Je pars du principe qu'ils n'ont pas calculé en jouant l'Allemagne. Ça me paraît improbable qu'ils calculent contre le Danemark, par exemple.
Je suis assez d'accord avec vous. C'était pour lancer un peu le débat, voir ce que vous en pensez.
J'espère, peut-être.
Je serais étonné que par un beau, voilà, on est début juillet, le ciel risque d'être clair. Il y a une heure de moins en Angleterre. L'atmosphère avec 65 000 personnes qui vont être...
qui toussent.
Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de Danois. Autant j'ai été étonné de voir beaucoup d'Italiens et d'Espagnols.
Une quarantaine, si
je pense qu'en fait, ils ne peuvent pas, venir, les étrangers.
C'est ça. Mais j'imagine qu'il y a des fortes quand même... Parce que je sais qu'il y a 300 000 Français qui habitent à Londres. Alors, il n'y a sans doute pas autant d'Italiens et d'Espagnols que de Français qui habitent Londres. Mais il doit y avoir quand même beaucoup d'Italiens et d'étrangers qui travaillent en Angleterre et qui ont dû se procurer des places pour y aller. Des Danois, je ne sais pas s'il y en a autant. C'est un pays de 5 500 000 habitants. Donc le stade va être acquis à la cause des Anglais, ça c'est sûr. Donc je pense aussi qu'il n'y aura pas de calcul. Il y aura même une odeur peut-être de finale de cup, même si c'est qu'une demi-finale.
Ils
vont y aller.
Quelque part, on a envie que la belle histoire continue quand même pour le Danemark.
Oui aussi. Alors le Danemark, justement, contrairement à l'idée reçue, parce que ce que je me disais avant, je me suis dit, très bien, c'est deux équipes qui se connaissent bien. Les Danois jouent en Angleterre. Il n'y en a finalement pas tant que ça. Mais il y en a trois assez importants à des postes clés. Il y a bien sûr Kasper Schmeichel qui connaît le mieux que personne sans doute le championnat anglais et l'équipe d'Angleterre. Et il y a en défense Christensen de Chelsea et Vistegaard.
il y a aussi Damsgaard qui fait un euro magnifique là.
Pierre-Emile aussi. Ah non, pas Eriksen.
Sans parler de Mail, qui fait un euro juste magnifique.
Ouais, fabuleux, l'ancien Genkois.
Ils ont une belle qui avait failli signer à l'OM, mais le fax n'était pas arrivé.
C'est marrant ce que tu disais, Henri. Je rebondis en disant, oui, on a envie que la belle histoire danoise continue. Alors, oui, pourquoi pas. Mais j'ai envie de dire, la belle histoire danoise, elle est là, quoi qu'il arrive, qu'il se fasse éliminer ou pas.
Non, mais je pense
même s'il avait été éliminé en poule, c'était quand même une belle histoire. Finalement, le gars, il est là.
Je pensais aux supporters, toi, qui ont acheté leur billet pour
Je comprends bien.
Il y a pas que des Anglais qui ont acheté leur billet pour les demi-finales à l'avance, sans savoir si leur pays allait être représenté. Donc, je pense qu'il y a une partie du stade qui va être plutôt pour le.
Oui, c'est vrai. Des spectateurs neutres qui prendront.
Heureusement, c'est dommage qu'il n'y ait que.
Mais c'est vrai que c'est assez beau aussi de voir cette équipe danoise qui, contrairement à l'Angleterre, à l'Italie, à l'Espagne, où l'Espagne peut-être dans une moindre mesure, mais les joueurs évoluent dans des clubs un petit peu moins huppé au Danemark.
Comme Barcelone ou...
Non, ils jouent à Barcelone, Braithwaite, mais c'est pas non plus le... Enfin, ils avaient besoin d'un...
Il est vite quand même, hein.
Oui, on va pas...
Il est rapide, hein, le Braithwaite.
Oui, mais je veux dire, s'ils avaient eu un peu plus d'argent et qu'il y avait eu plus de possibilités sur le marché des transferts, Braithwaite, il finissait jamais au Barça. Hein. Ils avaient une chasuble à donner à quelqu'un, il leur manquait un joueur, ils l'ont pris. C'est un très bon joueur, mais...
Pour le coup.
Voilà, Poulsen, il joue à Leipzig, c'est un bon, très bon joueur. Damsgaard, tu l'as dit, ça c'est la révélation de ce tournoi.
Il aurait jamais dû jouer, en fait.
Il aurait jamais dû jouer. Miel, il était à Genk il y a encore 8 mois. Il fait une super fin de saison
à
l'Atalanta.
On l'a déjà relevé, ça, le nombre de joueurs de l'Atalanta qui sont dans ce tournoi et qui se distinguent.
C'est
incroyable, c'est impressionnant. Physiquement, parce qu'ils ont aussi eu un championnat compliqué, ils étaient longs. Ils ont aussi joué la tête du championnat très longtemps.
Ils ont joué la tête du championnat.
Ils étaient dans la dernière journée.
Au Final 8 en août 2020. Mais non, ils sont...
Et les joueurs, ils sont là, hein, ils répondent présents. Ils ne sont pas carbo du tout, malgré un calendrier hyper chargé. Hein.
Sauf Castagne qui a pris...
Pas qu'il n'était pas carbo, lui. Il est écrabouillé, le pauvre.
Le pauvre
il s'est sacrifié pour rien, en définitive, malheureusement. Mais bon, l'histoire est comme ça.
Et comme ça. Alors, côté anglais, il y aura peut-être des ajustements tactiques ou des changements de joueurs. Côté danois, c'est un 11 qui est quasiment inamovible. Enfin, il joue quasiment avec les mêmes depuis le début du tournoi. Une défense à 3 avec Simon Kjær, avec Christensen, avec Vestergaard. Wow. Je vais retrouver le nom, la prononciation exacte, excusez-moi. Mail, qui joue sur son côté gauche.
C'est Mail Toits qui te regarde. Ouais.
Au milieu de terrain, peut-être la force principale, je sais pas, de cette équipe, les deux doubles pivots, si on veut, Delaney et Højbjerg, qui est le joueur de Tottenham.
Ouais.
C'est assez fort. Et devant, il y a Poulsen ou Dolberg. Dolberg qui est avec 3 buts et quasiment s'il marque un but, il sera le meilleur buteur danois.
De tous les temps.
Non, mais
dans une
phase finale d'un tournoi international, il serait à égalité avec Preben Elkjær Larsen et Jon Dahl Tomasson.
À Lokeren. Il a joué à Lokeren, oui.
Voilà, donc
les compos viennent de tomber. Hein.
Ah.
Ah ah.
C'est ce que je viens de dire. Il n'y a rien qui change.
Donc c'est Schmeichel, ne me dites pas, Yannick Vestergaard, Simon Kjær, Christensen, Meile, Larsen à droite.
Ouais.
Ah oui, il a pas joué Vass, il a fait Delaney et Højbjerg en centrale, et devant ça doit être Damsgaard, Braithwaite et Poulsen.
Dolberg.
Et donc Poulsen rentrera après.
Et Dolberg,
Dolberg,
il commence pas titulaire l'Euro, et puis il met ce doublé contre la République tchèque. Et depuis, titulaire indiscutable. Et
ouais, 3 buts, et voilà, s'il marque encore ce soir, donc il sera au firmament, au top des buteurs danois de l'histoire.
La compo anglaise, ça dit quoi?
Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips, Saka, Mount, Sterling, Kane.
Ok, bon,
c'est du lourd.
Saka, c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup.
Il a mis Foden sur le banc. Hein.
Il a mis n'avait pas commencé le match d'avant aussi.
Il avait commencé le premier match du tournoi.
C'est le même 11 que contre l'Ukraine, je pense.
J'ai l'impression.
Exactement. C'est le même.
Rashford n'est pas là. Grealish qui était réclamé pour ça par pas mal de monde.
Hein. Sur le banc.
C'est vrai qu'on sait qu'avec les 5-6 changements, c'est un petit peu moins. Il y a moins d'impact, moins de conséquences.
Qu'en fait aussi, on peut revenir peut-être un instant sur ce nombre de changements qui a changé. C'est que ça va révolutionner d'une certaine manière le foot, en tout cas le coaching, parce que tu pourras adapter, choisir. Les entraîneurs auront plus de loisirs de choisir de tactique en fonction de l'évolution du match. Il y a des moments du match en faisant rentrer tel joueur. Tu vois, je pense que ça va ouvrir, ça va élargir le spectre des possibilités tactiques en fait.
Mais pour l'instant, c'est toujours momentané, hein, ce truc des 5 changements. Ça a toujours pas été voté officiellement.
J'ai l'impression que, enfin,
je crois que chaque fédé peut l'appliquer ou pas. En fait.
Ouais, à mon avis, parce que les Anglais le font pas.
En première ligue,
les Anglais font toujours différemment, mais
c'est le billboard. Hein,
peut-être qu'avec la Coupe du Monde qui est aussi déplacée, elle va être en novembre. Peut-être que ça va justifier qu'ils poursuivent un peu parce que ça va faire aussi une saison particulière la saison prochaine, parce qu'ils vont commencer les championnats qui vont sans doute arrêter fin septembre. Et reprendre en janvier, enfin ça va être un peu particulier.
Il y a une révolution dans l'UEFA qui arrive déjà maintenant pour les coupes européennes.
Ils prennent plus de pot de vin.
Non, j'ai parlé d'une révolution. ils vont les buts à l'extérieur ne compteront plus double.
Ça permettra à Soulide de plus prendre les pieds dans le tapis.
Ça va probablement aussi permettre d'avoir des matchs retour parfois encore avec enjeu, parce que parfois quand t'as été gagné 1-2 ou 1-3 à l'extérieur, après tu te dis ok, c'est fini quoi, c'est plié.
C'est vrai.
Moi j'aimais bien.
C'est vrai, non, mais
on est né comme ça, donc ça nous a arrangé.
Ça ajoute un aspect tactique, quand même stratégique, disons. Et c'est vrai que vous avez des matchs comme ça où vous dites il faut marquer, l'équipe marque, et on a même tendance à dire on a marqué trop tôt, parce que du coup l'autre est obligé de réattaquer, et voilà, vous avez gaspillé votre.
Moi je dis que c'est une chance pour un chat.
Ouais. Il faut déjà la mettre au fond.
J'aime ta lucidité à cette heure-là.
Vous
voulez faire un petit mot d'histoire ?
Oui.
Donc, le meilleur résultat des Belges, finalement, reste l'Euro 80.
Ouais, oui.
Ils ont terminé en finale.
On a nouveau été battu par les champions.
Battu. Alors, c'était facile, c'était deux groupes. Donc, il n'y avait que 8 équipes qui participaient. Il y avait deux groupes, vous allez me dire ce que vous en pensez, plutôt déséquilibrés. Donc, le groupe 1, c'était la Grèce, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Tchécoslovaquie. L'Allemagne de l'Ouest de l'époque. Et la Belgique était dans le groupe de l'Angleterre, de l'Espagne et de l'Italie.
Donc, ah bah, ça va, c'était tranquille.
Ouais, c'était du boulot quand même.
C'est pas mal, hein.
Ouais, ouais.
La Belgique a terminé première du groupe.
Parce qu'en Angleterre, il devait peut-être y avoir quand même des vues Keegan, peut-être, ou peut-être qu'il jouait déjà.
Gary jouait déjà en 80
Lineker, non.
Non,
mais il devait y avoir peut-être Kevin Keegan.
Il y avait qui dans l'équipe de Belgique?
À propos de Lineker,
je vais vous dire.
J'ai vu la vidéo où il se moque de Immobilé, parce qu'ils ont vu la vidéo. Il part dans un fou rire, le gars, avec ses autres personnes sur son plateau en télé, puisque vous le savez, il est animateur sur la BBC, je pense. Et voilà, pour lui, c'est vraiment.
Ciro Immobilier, tiens, d'ailleurs, hier, il a encore fait un match, il a traversé un peu le match.
Catastrophique, hein. Ouais. L'Euro d'Immobilier, c'est.
Ah, Immobilier, le bien nommé, hein.
Ouais.
Franchement, par rapport à ce qu'on nous disait, la vitesse, le machin. Bon,
et par contre. Verratti a été fidèle à lui-même, 70e minute, il demande à sortir.
Les mains sur les hanches.
C'est l'heure d'aller fumer, fumer des clopes.
Les poumons sur le terrain.
En même temps, quelle 70 minutes. Ouais, hein. Wow.
C'est vrai qu'il vaut mieux avoir un joueur. C'est vrai que pour ce genre de joueur, c'est un avantage qu'il y ait 5 changements, au moins, enfin pour le coach de ce joueur.
En attendant, contre nous, enfin contre la Belgique, il a été élu homme du match. Hein, ben, donc, et pas volé.
Non,
pas volé.
Henri, alors, tu poursuis avec...
Le parcours de la Belgique, c'était 1-1 contre l'Angleterre. Ils battent l'Espagne 2-1. Et ils font 0-0 contre l'Italie. Donc ils terminent avec 4 points seulement.
Et à l'époque, c'était 2 points pour la victoire.
2 points la victoire, exactement. Alors la finale, très simple. Belgique-Allemagne, les deux premiers de chacun... Enfin, le premier de chacun des groupes. Peut-être, Didier, tu as une idée de quelques joueurs de la composition du 11 ?
Alors, de chez nous ?
De chez nous.
Alors, je sais pas, je sais qu'on a été assassiné par Horst Rubesch.
Eric Guéret.
Bien vu, Guéret.
Kullmans,
le gardien iconique.
Jean-Marie Pfaff.
Jean-Marie Pfaff, exactement.
Ah, il est déjà là.
Van der Elst. Je prends pas de risque, ça peut être François.
François était là. Ou Léo.
Donc, il y a une faute sur François Van der Elst qui donne un pénalty. La faute était hors du rectangle. Et qui a marqué le pénalty?
L'Avare.
Un Brugeois.
Oh, okay. Non, je sais pas, vas-y.
René.
Van Dreek.
René Van Dreek. Mais si, si.
Waouh.
Comme quoi, il a réussi à mettre un goal dans sa carrière.
Moi, je le connais uniquement en tant qu'entraîneur, sélectionneur de nos heures les plus noires.
Van Dreek, Leken, c'est la même génération.
Il y en a un qui connaît, un défenseur barbu.
Un défenseur barbu.
Non.
Oui, évidemment, Guéret.
Ah oui,
barbu à l'époque, ah oui.
Mais il y a un autre défenseur barbu, moins connu, qui avait un frère.
Milkan.
Voilà. Et c'est lequel?
Le défenseur barbu, c'était... J'hésite entre Luc et Marc, évidemment. Avec ma chance habituelle, je vais dire Luc. Et non, c'est
Luc.
Marc.
Non, c'était Luc. Il y avait aussi en défense.
J'ai voulu faire mon blaise.
Walter Mus et Michel Ranquin.
Ah, Michel Ranquin.
Et le capitaine, ça c'est un piège, honnêtement. Qui était capitaine de cette équipe?
Wow.
C'est pas Van Moor.
Non.
Qui était là, mais qui n'était pas capitaine. Ni Kullmans qui était là aussi.
Oh, j'en ai pas la moindre...
Julien Kohls.
Julien Kohls, un brugeois, s'il vous plaît.
Complètement oublié.
Eh oui.
Et dans le groupe de 22 joueurs qui étaient sélectionnés, il y avait seulement deux gardiens. Quelqu'un qui était le deuxième gardien?
C'était pas Prédhomme, parce qu'il y
avait... Théo Kusters.
Théo Kusters, gardien à l'époque de l'Antwerp, si je me trompe.
Absolument.
Ouais.
Il y avait dans la section un joueur du RUDM.
Alors ça ne peut être que Maurice Martens.
Bien vu.
Ouais.
Bravo.
Joli, joli.
Pour une fois, mais quand c'est le truc français, je suis à la rue.
Je pourrais te donner facilement les joueurs français de cet Euro. Il n'y en avait pas, puisqu'ils n'étaient pas qualifiés.
Et alors, il y avait une petite particularité. Wilfried Marmour, qui était quand même un grand joueur, qui avait joué au Standard, il était à Beringen quand il était sélectionné.
Ouais, et il avait déjà pas loin de 30.
Il avait 35 ans, ce moment-là.
Il a terminé à 38 ou à 39 ans sa carrière, je crois. C'est ça, hein.
Ça reste en tout cas le meilleur résultat des Belges. On espérait qu'ils le fassent sauter cette année. Mais...
Bah, ils auront réalisé leur deuxième meilleur résultat, si je ne m'abuse. Alors, à égalité avec 2016.
À l'Euro, je pense.
Ouais. Quart de finale.
Quart de finale contre le Pays de Galles. 2016, hein,
avec le Pays de Galles, oui, pareil.
Mais enfin, la différence près, c'est qu'on est passé à côté de notre sujet, je pense, contre le Pays de Galles. En
revanche, oui, il y a des regrets à avoir.
Contre l'Italie, on est tombé sur plus fort.
Ouais, ah, il pourrait y avoir une très... On parle de la belle histoire danoise. Elle pourrait être encore... Elle serait encore rehaussée par une chose, pour un joueur en particulier, c'est Kasper Schmeichel, puisqu'on se rappelle que son père
a déjà
a
été
gagné
champion en 92.
Et en 92, et c'est vrai que ça ferait un peu écho, alors pas dans les mêmes circonstances, mais on se rappelle qu'en 92, la Yougoslavie avait été qualifiée pour l'Euro, elle avait été finalement suspendue
à cause de la guerre,
et qu'on avait repêché le Danemark pour pas jouer l'Euro à 7. Le Danemark avait fini deuxième du groupe de qualification, et c'est les pieds dans le sable et un verre de sangria à la main que les joueurs du Danemark avaient été convoqués. J'ai vu un film d'ailleurs dessus, un film danois, qui a une sorte de biopic
sur Netflix.
Ouais, sur l'entraîneur.
Ah, je l'ai regardé aussi.
C'est assez sympa. Bon,
qui s'appelle
Je me souviens
plus. Été 1992.
L'image des Laudrup est pas terrible parce que
c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Mais alors Michael avait pas
accepté de participer à l'Euro et Brian lui avait été un peu la grande star
C'est marrant maintenant qu'on en repense, ces joueurs étaient juste emblématiques.
Mais les Danois ont produit un nombre, moi je trouve,
moitié de la Belgique.
Ouais 5,5 millions, les années je m'étais lancé dans du Danish Dynamite. L'autre jour, je me suis un peu loupé sur mon anglais, mais avec des Preben Elkjær Larsen, des Alan Simonsen avant ça.
Oh, quel joueur aussi.
Jesper
Olsen. Allemagne, je crois, non Allemagne.
Aussi à Mönchengladbach.
Jesper Olsen, Michael Laudrup, la Coupe du Monde 86.
Morten Olsen. Ça, c'était en Belgique.
Hendrik Andersen.
Ouais, c'était vraiment.
Ça, c'est déjà plus récent.
Et c'est vrai que les frères Laudrup,
c'est
assez incroyable d'avoir des joueurs de ce niveau.
Ben
Laudrup, il a joué au Barça et au Real, et dans les deux clubs, je crois que c'est un des rares joueurs. Autant Figo, on lui a acheté une tête de cochon. Luis Enrique, je pense qu'il n'est pas en odeur de sainteté à Madrid. Mais Laudrup, il y a lui et il y a peut-être Bernd Schuster, qui en plus a joué à l'Atlético Madrid. Et eux, ils sont des deux côtés. Ouais, la belle moustache. Eh ben, Bernd Schuster, c'est le meilleur joueur de l'Euro 80, me semble-t-il. En tout cas, il a ensuite arrêté quasiment sa carrière internationale avec l'équipe d'Allemagne fédérale, mais il a été dans l'équipe vainqueur de l'Euro 80.
Il y avait déjà Rummenigge en 80,
oui.
Je pense.
Oui, il y avait Rummenigge, il y avait Rubesch et Klaus Allofs qui terminait en buteur.
Klaus Allofs, belle moustache aussi.
Et le gardien, un ami des Français.
Harald Schumacher, Tony.
Est-ce qu'il y avait déjà l'arrière ailier qui a fait une carrière à Cologne pendant presque toute sa carrière
Lidbarski ?
Non. Oui, Lidbarski, tout à fait.
Il était parti à Paris d'ailleurs.
Oui, au Matra, exact.
Et il y avait déjà en 80 Lidbarski ?
Je pense pas.
Quel joueur c'était ça? Waouh!
Il y avait Hansi Müller.
Hansi Müller, qui a joué à Bordeaux, je crois.
Ouais. Exact.
Hansi Müller. Ouais.
Ouais. T'as de la bouteille, toi.
De Bordeaux.
Alors, il y a Blaise qui est en train de se dire, c'est quoi ce rendez-vous de vieux croutons ici?
C'est un piège. En tout cas, oui, ce serait une belle.
Bonbon, Blaise.
C'est vrai qu'on est en Belgique. Quel que soit, en tout cas, maintenant que l'Espagne est out, non, je plaisante, ils auraient mérité aussi. Mais quel que soit le vainqueur de cet Euro au final, ce sera un beau vainqueur parce que là, on a trois équipes encore qui peuvent gagner le titre pour des raisons différentes, dans des registres différents, mais qui apporteront quand même du bonheur. Puis là, j'entends tous nos auditeurs italiens qui disent oui, enfin, surtout si c'est l'Italie quand même, parce que ça fait. Moi, l'Italie n'a pas gagné depuis 68 l'Euro, l'Angleterre jamais gagné, le Danemark 92.
Moi, j'ai perdu l'Italie des radars, franchement. Comme ils n'étaient pas qualifiés en Coupe du Monde, j'avais pas suivi. J'ai entendu la réputation des 27 matchs sans défaite. Franchement, c'est une découverte, une belle découverte.
Ouais, ouais,
31 hein, maintenant.
Maintenant, oui, mais
ils sont plus, 33 même maintenant, 33. Je pense. Ouais, c'est vrai que c'est.
Nous, on n'était pas loin. Nous sommes à 28. Hein.
Et alors, juste
série interrompue.
Pour le match de ce soir, je crois qu'il y a les 5 derniers matchs qui sont joués à Wembley entre l'Angleterre et le Danemark se sont soldés sur un 1-0. Alors, je ne sais pas si ça aura une quelconque. Important,
c'est en faveur de l'Angleterre ou
non
ou
les Danois ont gagné deux fois et je crois que la dernière victoire anglaise contre les Danois, si je dis pas de bêtises, c'est en 2002. Donc il y a quand même un petit voilà, il va falloir qu'il se.
Alors il est 20h52, c'est ce que l'histoire retiendra au moment où Blaise va prononcer
le pronostic.
Blaise le
pronostic. Moi j'aimerais bien que.
Non, on dit pas j'aimerais bien, on dit je crois et je pense.
Je crois. Je pense que l'Angleterre va passer, mais...
Oh là là, petit joueur.
Ouais, non, bien sûr, bien
ça,
sûr.
Ça, c'est
ouais.
pas sympa.
sinon, au niveau des
aïe, aïe, des aïe autres... moi qui voulais que l'Angleterre soit en finale, c'est foutu.
Des autres nouvelles de football, il semblerait que ce soit fait pour Sergio Ramos au Paris Saint-Germain. Il a passé des tests physiques, dit-on,
Hakimi,
exceptionnels.
Hakimi aussi.
Ouais,
Hakimi s'est fait aussi.
L'arrière-droit, mais il paraît que les tests passés par Ramos... pour un joueur de 35 ans, enfin pas pour un joueur de 35 ans, mais en tout état de cause, ont été qualifiés d'exceptionnels par le staff médical.
Il s'est dit que les docteurs étaient impressionnés par son
impressionné,
état de
forme. Ouais, c'est ça. Bon, cela dit, il n'a pas joué depuis, ouais. depuis 4 mois, et ce serait bien la moindre des choses.
Ouais. C'est les mêmes médecins qui ont marqué la même chose sur... Enfin, non, rien, laisse tomber.
il y a aussi, rapidement aussi, il y a une vidéo qui est sortie...
Eriksen a passé ses tests physiques il n'y a pas longtemps à l'Inter aussi, alors, ouais. Donc voilà, il a réussi brillamment.
Il serait venu à Paris et on l'aurait dit tout de suite.
Il y a une vidéo qui est sortie là, sur les réseaux.
Parce qu'il est toujours là et que tout va bien, évidemment. On précise.
Il y a une vidéo qui est sortie sur les réseaux où il y a Ronaldinho, Pogba, Matuidi et Dybala en boîte à Miami. Et Ronaldinho est dans un état.
Oui, j'ai vu ça.
Il communique uniquement par des câlins et des bisous. Et il a un sourire comme une banane.
Il lâche pas Pogba, il le prend, il le lâche pas.
Aïe, aïe, aïe. Ah, ravage de.
Moi, je crois que Verratti était là, mais on le voit pas parce que.
Je sais pas dans quel état il va être dans 10 jours, puisque dans 2 semaines, il doit jouer en Israël. Il y a le Classico de la paix.
Ah oui,
entre ex-star du Barça et ex-star du Real. Je sais pas dans quel état il va être. En tout cas, je pense que les patrons de boîte de Tel Aviv se réjouissent de le voir arriver. On sait que ça va être la fête avec lui.
Je pense que ce sera café Shachor Hazak.
ça va être quelque chose. Écoutez, je crois qu'on s'est tout dit. Si on veut pas louper le plus bel hymne de la compétition, ça devrait être quelque chose devant 65 000 personnes. Un beau God Save the Queen. Les joueurs sont dans le couloir. Ils pénètrent actuellement sur le terrain. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, un très beau match, et on vous donne rendez-vous demain pour un débrief et une présentation de la finale.
Eh bien,
à demain.
Bon match à tous,
bonne soirée.
Bon match à tous,
au revoir.
Et que le meilleur gagne.
À la France des balles.
Allez, Eden. Eden Hazard, la petite pichenette vers Axel Witsel. Witsel qui récupère.
D'abord vos corps qui se séparent, et seul dans la lumière des phares, et t'entends à chaque fois que tu respires, comme un bout de tissu qui se déchire, et ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. L'instant d'après, le vent se déchaîne, les heures s'allongent comme les semaines. Te retrouve seul assise par terre, à bondir à chaque bruit de portière, mais ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher, c'est toujours le même film qui passe. T'es toute seule au fond de l'espace. D'avant, les mêmes endroits, deux fois trop grands, t'avances comme dans des couloirs, tu t'arranges pour éviter les miroirs, mais ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton
faudrait que tu l'oublies à longueur de journée. Dis-toi qu'il est de l'autre côté du pôle. Dis-toi surtout qu'il ne reviendra pas. Et ça te fait marrer les oiseaux qui s'envolent. Les oiseaux qui s'envolent. Les oiseaux qui s'envolent. Chance qu'il te reste un peu de son parfum sur ta veste. Tu avais dû confondre les lumières d'une étoile et d'un réverbère. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord.
Making me feel- 90.2 FM.
And love is about pain, so stop the clank and drop the order of strength. Sex life's a game, so back me down in the paint. I can't wait no more. Cause it's about a quarter past three, and sure days I mean, I got the Bentley Ballet, and I'm just outside of Jersey, past the Palisades.